Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Harry Houdini est considéré comme le plus grand magicien de tous les temps. Il apparaît dans l'histoire au moment où la magie, les illusionnistes sont en prise avec les médiums ou les spirites. Les uns parlent de technique, quand les autres parlent d'esprit. Le parcours de cet homme, fils de rabbin, né en Hongrie, émigré aux États-Unis à l'âge de 4 ans, est un roman fantastique. Serrurier, cireur de chaussures, trapéziste puis prestidigitateur, il sera consacré tour à tour roi des cartes, puis roi des menottes, puis roi de l'évasion, inventeur de l'escapologie. Discipline qui consiste à se libérer de n'importe quelle chaîne. Il va passer sa vie à relever les défis les plus fous. C'est son histoire que je vous propose de découvrir dans cet épisode en deux parties. Première partie, le roi des menottes. En cette année 1903, Moscou a voulu, comme toutes les capitales du monde, rencontrer celui qui passe pour le plus grand magicien de tous les temps, Harry Houdini. Ou plutôt, comme on le prononce là-bas, Gary Houdini. Aux États-Unis, il a la réputation de pouvoir s'échapper de n'importe quelle prison, de se libérer de n'importe quelle chaîne, de dénouer n'importe quel nœud dont il serait entravé. Les autorités russes sont venues accueillir Houdini à la toute nouvelle gare de Moscou. On rit sous cape. Ce monsieur a peut-être pu duper les geôliers américains, mais on va voir s'il pourra échapper aux fers sibériens. Le Nouveau Monde regorge de criminels en fuite, c'est bien connu. Mais chez nous, les bandits enfermés ne s'échappent pas. Et si les prisons de Chicago ont la réputation d'être des passoires, celles de Moscou sont absolument étanches et à l'abri des courants d'air. Houdini découvre la Russie avec excitation. L'Occident, c'est le pays de la raison. Les gens y ont l'esprit terre à terre. Alors qu'ici, on entre dans l'irrationnel, la démesure, la fantaisie. Le magicien sait que s'il subjugue ce peuple, il ne sera pas seulement consacré roi de l'illusion. Il sera perçu comme un sorcier capable d'accomplir toutes sortes de prodiges. Dans la voiture qui le mène à travers la grande ville russe, Houdini précise à ses hôtes qu'il ne veut pas rencontrer quelques policiers de second rang, mais le chef de la police secrète en personne. On le rassure. En effet, il a reçu l'autorisation exceptionnelle de parler au général Lebedev. Ce dernier a bien eu vent par la presse de la visite du magicien, et si les journalistes ont laissé entendre que la police relèverait tous les défis proposés par Houdini, le général, lui, se montre plus que réservé. Parvenu à la Bourtica, siège de l'administration pénitentiaire, Houdini, d'un pas altier, sûr de lui, entouré de deux officiers, entre dans le bureau de Lebedev. Il s'assied. On le laisse seul un moment. Lebedev peut enfin découvrir, autrement que sur de mauvaises photographies, le visage de son visiteur. Ce qui le frappe, en dehors de ce nez fin et aigu qui trahit ses origines magyares, ce sont les yeux du magicien. Un regard fixe, à la fois perçant et absent. Lebedev a le sentiment désagréable d'être scruté, exploré, mis à nu.
Je vous demande de me donner l'occasion de montrer aux journalistes et au public à quel point je peux facilement disparaître de n'importe quelle prison de Moscou.
Quelques secondes de silence. Lebedev regarde Houdini dans les yeux, fixement, puis avec un léger sourire, il répond au magicien.
« Ce sera Niet !»
Houdini est stupéfait. Il demande la raison de ce refus.
« Comment dites-vous en Amérique ?« No comment, je crois. »
Lebedev n'est pas fou. Il connaît la réputation d'Houdini. Il sait que s'il s'échappe, comme il le promet, d'une prison russe, la honte et l'opprobre retomberont sur toute la police moscovite. on enverra des inspecteurs vérifier toutes les portes de toutes les geôles de toute la Russie. On chassera tous les chefs des pénitenciers. Et lui, les Bedev, sera humilié et licencié séance tenante. Houdini réfléchit. Il ne veut pas baisser les bras si facilement. Il est quand même venu à Moscou pour ça. Il en va aussi de sa réputation. Alors il propose à Lebedev un compromis. « D'accord, mettons de côté vos prisons et vos chaînes. Mais j'ai entendu parler des fourgons qui emmènent les criminels dangereux. Enfermez-moi dans l'un de ces fourgons !» Lebedev ne s'attendait pas à telle proposition. Il s'esclaffe. De fait, les fourgons pénitentiaires russes sont réputés inviolables. Ils sont conçus comme une cage de bois, enchâssés dans une cage de fer. Une petite lucarne pourvue de barreaux permet aux prisonniers de respirer. La porte d'accès est rivetée et fermée par un verrou à plusieurs barillets, ce qui rend impossible toute tentative d'ouverture. Et il n'y a que deux exemplaires de la clé qui ouvre la serrure. L'un est à Moscou, aux mains du tsar, l'autre est en Sibérie, destination finale du fourgon. Lebedev accepte le défi. Il demande à Houdini, un peu ironiquement, s'il est prêt à faire le long voyage vers la Sibérie. Car s'il veut jouer les prisonniers, il faut qu'il aille jusqu'au bout du défi. Le magicien, sans quitter Lebedev des yeux, acquiesce sans hésiter. Auparavant, ordre est donné de le fouiller méticuleusement. Il est mis complètement nu. Un médecin vient inspecter chaque partie de son corps, y compris les plus intimes. Puis on l'enchaîne et on l'enferme enfin dans la sinistre cage. Lebedev s'éloigne et observe attentivement. Les secondes s'écoulent. La cage résonne de bruits sourds, de chocs, de frottements. 27 minutes plus tard, Houdini ouvre la porte et sort libre de tous ses fers. Il est en sueur et totalement essoufflé. Lebedev, lui, n'en revient pas. Il est hors de lui, il écume. Il fait appeler le médecin. « Avez-vous bien fouillé toutes les parties de son corps, absolument toutes ?» Le médecin, qui risque sa place, répond que oui, tout a été visité, y compris l'anus. Lebedev serre les dents. « Et l'œsophage ? Avez-vous vérifié son œsophage ?» Le médecin balbutie. « Ben non, c'est vrai, non, on n'a pas vérifié l'œsophage. » Lebedev n'est pas chef de la police secrète pour rien. Les imbéciles, s'ils avaient inspecté Houdini lui-même, jamais ils n'auraient ridiculisé la police de cette manière. De fait, c'est bien dans son œsophage qu'Houdini a dissimulé le passe-partout qui lui a permis en un rien de temps d'ouvrir toutes les serrures. Il quitte Lebedev avec le sourire du vainqueur. Les jours suivants, la police échaudée ne le quitte pas d'une semelle. Il a depuis longtemps le désir de rencontrer les médiums russes, dont la réputation a traversé l'Atlantique. Mais il ne pourra pas le faire sans la présence à ses côtés d'un ange gardien qui note tous ses faits et gestes. Avant de quitter la Russie, il fait transmettre à Lebedev un billet.
« J'ai réussi à apprendre chez vous un secret véritablement stupéfiant. »
Ce secret, l'informateur de Lebedev, qui pourtant n'a pas lâché Houdini une seconde, va se montrer incapable d'en connaître la teneur. Lebedev demande à ce qu'on rattrape le magicien. Trop tard, il a déjà franchi la frontière. Qui est donc ce jeune homme, âgé de 29 ans au moment où se déroule cette histoire? Né en Hongrie en 1874, sa famille émigre aux États-Unis alors qu'il a 4 ans. À cette époque, il ne s'appelle pas encore Harry Houdini, mais Eric Weiss. Entouré de 5 frères et sœurs, le petit Eric grandit dans le Wisconsin, aux États-Unis, où son père a la charge de rabbin. Quantité de légendes courent à son sujet, d'autant plus vivaces qu'elles entretiennent une sorte de brouillard mystérieux autour de la vocation première du futur magicien. Pourtant, l'enfance d'Éric semble avoir été l'enfance de toute cette population européenne de la fin du XIXe, émigrée en Amérique et désireuse de trouver là-bas une vie nouvelle, un avenir, une espérance. Dès l'adolescence, il travaille à l'usine, puis enchaîne différents petits métiers pour le moins hétéroclites, parmi lesquels celui de serrurier, qui lui sera bien utile lorsqu'il se fera magicien. C'est un garçon peu instruit, mais athlétique. Il excelle dans de nombreux sports. Son agilité hors du commun lui donne l'occasion de présenter des numéros de cirque virtuose. On dit qu'il était, dès l'âge de 9 ans, un as du trapèze. Les magiciens ambulants à cette époque sont légion dans le Nouveau Monde. Ils sillonnent les plaines des contrées les plus reculées pour vendre entre deux tours de passe-passe des potions de leur cru ou exercer d'hypothétiques dons de médecins et de guérisseurs auprès des malades. Nombreuses sont les petites villes où, ayant été démasqués comme imposteurs, on les gratifie d'une cravate de chanvre et on les pend à la sortie du bourg. Magnétiseurs, apothicaires sont aussi habiles à concocter des élixirs à base de bourbon et de nitroglycérine qu'à manipuler les cartes lors de séances de poker où ils plument sans vergogne paysans et notables avant de prendre la poudre d'escampette. C'est l'un de ces personnages, appelé Dr Lin, qu'Eric Weiss, futur Houdini, rencontre alors qu'il a 17 ans. Il est frappé au cœur. Il le sait, à présent, il sera magicien. Il cherche à connaître l'histoire de cette discipline et découvre l'histoire d'un magicien considéré comme une référence en Europe, un Français nommé Robert Houdin. Il dévore littéralement cette histoire. Cet Houdin va devenir son maître à penser. Avec son frère Théo, Éric décide de créer une compagnie, les frères Houdini. Oui, parce qu'on lui a suggéré d'ajouter au nom de son idole la lettre I, Houdini. Cela signifiera « fils de Houdin ». C'est un peu s'inscrire dans sa filiation. La jeunesse est crédule quand elle est passionnée. Il passe ses journées à manipuler les cartes et devient rapidement un virtuose. Pendant 5 ans, les deux garçons présentent des tours de magie dans les cirques. Sur les premières affiches, on l'annonce comme le roi des cartes. Il présente aussi un tour qui rencontre un certain succès. Ayant avalé du fil et une certaine quantité d'aiguilles à coudre, il les ressort de sa bouche, enfilées les unes aux autres. Mais ces tours de magie n'ont pas le succès escompté. Éric Weiss gagne difficilement sa vie. Il est un peu découragé et décide d'abandonner. À ce moment-là, il commet un véritable crime aux yeux du monde de la magie. Il met en vente les secrets de ses tours de passe-passe. Et pour cela, il fait passer une annonce dans les journaux. Il est prêt à céder ses trucs pour 20 dollars. Alors qu'il est à deux doigts d'abandonner définitivement la magie, eh bien, se joue un coup du destin étonnant. D'abord, il n'a trouvé aucun acheteur pour ses fameux secrets. Et puis, lors de ses différents exercices, depuis quelques années, il a acquis une grande facilité pour ouvrir n'importe quelle serrure. Il va bien sûr se servir de son expérience de serrurier. Il possède une belle collection de passe-partout. Mais surtout, grâce au conseil d'un avaleur de sabres, il a appris à dissimuler des objets dans son œsophage. Et lors d'un de ses spectacles, qu'il pense être le tout dernier de sa courte carrière, eh bien il se trouve qu'un agent est présent dans le public, Martin Beck. Nous sommes alors en 1898. Martin Beck est époustouflé par le numéro au cours duquel Houdini se libère de ses chaînes. Il vient le voir en coulisses. Pour lui, aucun doute, il doit faire de ce numéro sa marque de fabrique. Houdini, qui pensait en avoir fini avec la magie, saisit la balle au bond. Il était magicien. Il sera à présent spécialiste de l'évasion. Escapologue. Il est aussitôt embauché dans une tournée de la prestigieuse compagnie de l'Orphéum pour un spectacle appelé « Vaudeville ». Dans la foulée, il lance un défi à la police de Chicago. Tant qu'à faire du nouveau, autant frapper fort et viser haut. Il affirme qu'il pourra se libérer de la plus sécurisée des cellules de la prison de la ville en moins de 30 minutes. La police américaine aime les paris. Dans les casernements comme dans les saloons, le poker fait partie de l'emploi du temps. Eh bien, la police relève le défi. On enferme Houdini après l'avoir copieusement ligoté et paré de multiples cadenas. En moins de 3 minutes, il réapparaît libre. L'assistance est époustouflée. Le coup du passe-partout dans l'œsophage n'est pas encore découvert. Il est tout simplement impensable. Pour Houdini, c'est le début d'une nouvelle carrière, mais aussi de nouveaux défis de plus en plus incroyables. Et c'est ce que nous verrons dans la seconde partie de cet épisode.